Radio Prague, les informations.
Le cabinet recommande l'adoption de la loi permettant l'organisation d'élections législatives anticipées. Le vice-gouverneur de la Banque centrale critique le projet de budget de l'État pour 2007 qui retarde l'adoption de l'euro. Le ministre de la Culture a nommé le nouveau directeur du Théâtre national. Le cabinet de Mirek Topolánek termine l'élaboration du programme d'action avec lequel il se présentera au mois d'octobre prochain devant les députés pour obtenir leur confiance. Les priorités du cabinet minoritaire de l'ODS, parti de droite libérale, sont les suivantes: préparer le budget de l'État pour 2007 et la présidence tchèque de l'Union européenne en 2009. Lors de sa réunion ce mercredi, le cabinet a recommandé à la Chambre des députés d'adopter le projet de loi sénatorial permettant l'organisation d'élections anticipées en tant qu'une issue à l'actuelle situation politique bloquée. Le deuxième parti le plus fort, la social-démocratie, qui dispose de 74 des 200 sièges à la Chambre, s'y oppose cependant. Le vice-gouverneur de la Banque centrale, Ludwig Niedermayer, a soumis à une critique sévère le budget de l'État pour 2007. Il lui reproche de ne pas respecter les engagements de la République tchèque de diminuer les déficits en sorte que la monnaie unique européenne puisse être adoptée d'ici à 2010. La première scène culturelle dans le pays, le Théâtre national de Prague, un nouveau directeur, c'est Jan Mrzena, ancien président du conseil de la télévision tchèque et ancien directeur du théâtre de Bohême du Sud de České Budějovice. Le ministre de la Culture, Martin Štěpánek, l'a nommé à la place de Daniel Dvořák, qui se trouvait à sa tête pendant 4 ans. La République tchèque demandera à l'OTAN de procéder à la levée du secret de l'étude relative à la création du système de protection antimissile. En l'indiquant au quotidien Pravo, l'ambassadeur tchèque à l'OTAN, Stefan Fülle, a souligné que la levée du secret permettrait d'engager un véritable débat sur une éventuelle implantation d'une base antimissile sur le territoire tchèque. L'Institut de la mémoire de la nation pourrait bientôt être fondé en République tchèque. En janvier dernier, les sénateurs ont donné le feu vert à la fondation de cet institut qui permettrait de faire la lumière sur les crimes du communisme et les activités de l'ancienne police politique, la STB. Un temps ensoleillé, des températures variant entre 22 et 26 degrés sont prévues pour jeudi, jour de fête des Ratka. C'était les informations par Jarka Gisublova.
Faits et événements en République tchèque. Magda Segertova.
Vous écoutez Radio Prague, merci pour votre fidélité. La présidente de la Cour suprême, Eva Brožová, révoquée par le président de la République, continuera à exercer ses fonctions. La Cour constitutionnelle vient d'annuler la décision du chef de l'État. Les explications tout de suite dans ce magazine. À la une de l'actualité également, le limogeage mercredi de Daniel Dvořák, directeur du Théâtre national de Prague, pour mauvaise gestion financière de cette institution. Vous entendrez ensuite le directeur du lycée professionnel de la Côte d'Argent à Biganos, lycée qui a monté un projet européen avec son établissement partenaire tchèque. Le basketball et le football sont à la une de l'actualité sportive. Le président de la République tchèque nomme les juges, mais a-t-il le droit de les révoquer? À cette question, la Cour constitutionnelle a répondu non dans l'affaire de la présidente de la Cour suprême que le chef de l'État avait révoquée en janvier dernier. Quelques lumières sur une sorte de précédent en matière de justice par Alain Slevansky.
Eva Brožová avait été nommée présidente de la Cour suprême par le président de la République Václav Klaus. En janvier dernier, sur la proposition du ministre de la Justice de l'époque, Pavel Niemetz, le chef de l'État avait signé l'acte de sa révocation. Tous deux argumentaient en affirmant que Brožová présentait des lacunes dans l'accomplissement de ses devoirs. Mais la présidente de la Cour suprême ne l'entendait pas de la sorte. Eva Brožová avait refusé de se plier à la décision présidentielle et avait conservé sa fonction. Plus, elle avait œuvré pour que la Cour constitutionnelle abolisse, en juillet dernier, une partie de la loi sur les tribunaux et les juges qui permettait à celui qui nommait les juges de les révoquer aussi, en l'occurrence le président de la République. Le 12 septembre, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict dans l'affaire de la plainte de la présidente de la Cour suprême, selon laquelle sa révocation était basée sur une loi anticonstitutionnelle et en plus sans un véritable fondement. Dagmar Lastovetska, juge rapporteur de la Cour constitutionnelle, lors d'une émission en direct diffusée par la chaîne d'information de la télévision tchèque, ČT24, a indiqué entre autres.
La Cour constitutionnelle a constaté que dans la situation où le pouvoir de révoquer le président de la Cour suprême n'est pas textuellement mentionné dans la Constitution, l'adoption de l'interprétation selon laquelle le pouvoir du président de la République de le nommer impliquerait aussi la possibilité de le révoquer serait contraire à la valeur constitutionnelle représentée par l'indépendance du pouvoir juridique et son indépendance à l'égard du pouvoir exécutif.
Iva Brožová conserve donc sa fonction de présidente de la Cour suprême, mais le chef de l'État considère la décision de la Cour constitutionnelle comme dangereuse et erronée. Václav Klaus. Dans cette décision d'un des sénats de la Cour constitutionnelle, je décèle une orientation dangereuse dans la situation existant après novembre 1989, qui conduirait de la démocratie parlementaire au corporatisme des juges, visant l'autonomie illimitée des juges, qui, sous cette forme, n'existe nulle part dans le monde. De son côté, Iva Brožová ne s'est pas prononcée sur le verdict des juges constitutionnels. Elle se remet des suites d'un accident de la route et c'est son mari, l'avocat Jaroslav Broš, qui a déclaré « Il n'y a ni vainqueur ni vaincu dans cette affaire, car il s'agissait seulement de la protection de l'indépendance de la justice. »
Le directeur du Théâtre National, Daniel Dvořák, s'en va. Cet architecte et scénographe qui a dirigé le Théâtre National pendant 4 ans vient d'être révoqué par le ministre de la Culture, Martin Štěpánek. Václav Richter.
Le Théâtre National, qui réunit en fait 3 établissements abritant les troupes d'opéra, de théâtre dramatique et de ballet, est une des plus importantes institutions culturelles du pays. Les activités du chef d'une telle institution sont donc évidemment très suivies et n'échappent pas à la critique des milieux culturels. C'est déjà l'ancien ministre de la Culture, Vítězslav Janda, qui a envoyé un contrôle au Théâtre National, mais il semblait hésiter avant d'en tirer les conséquences. Par contre, son successeur actuel, le ministre Martin Štěpánek, installé dans ses fonctions il y a 15 jours à peine, a tranché en révoquant sans délai le directeur Daniel Dvořák.
Je me suis basé sur les résultats d'un audit commandé par mon prédécesseur Vítězslav Jandák et j'ai été un peu surpris que le ministre Jandák ne soit pas allé plus loin dans ses décisions après avoir connu ses résultats. Je me suis penché sur ce rapport qui était assez négatif et j'ai donc pris cette décision.
L'audit aurait découvert déjà en mai dernier les dépenses problématiques et trop généreuses dans la gestion économique de ce théâtre subventionné et les interventions postérieures dans sa comptabilité. Daniel Dvořák souligne cependant que tout ce qu'on lui reproche ne sont que des fautes mineures et que la situation économique du Théâtre National s'est beaucoup améliorée sous sa direction par rapport à la période précédente.
Tous les arguments dans ce rapport ne sont que des défauts de forme, des fautes d'individus. Je peux mettre ce rapport à la disposition de la presse. Une comparaison à titre d'exemple. C'est comme si la police de la route vous arrêtait et vous retirait le permis de conduire parce qu'un passager avait bu de l'alcool et vous ne vous en êtes pas aperçu à temps pour le chasser de la voiture. J'ai demandé au ministère à plusieurs reprises de publier ce rapport et c'était le ministère qui a refusé de le faire. Je n'ai donc rien à ajouter à tout cela sauf une chose, que chacun lise le rapport pour voir si j'ai raison.
Daniel Dvořák souligne aussi que son départ inattendu met en cause de nombreux projets artistiques de théâtre qu'il a initiés et dont la réalisation est en cours. Le ministre ne semble pas pourtant être prêt à changer d'avis et prépare d'ores et déjà l'avenir du théâtre national.
Nous avons choisi une personnalité qui,
Nous avons déjà choisi une personnalité qui dirigera le théâtre national pendant le temps nécessaire pour préparer le concours en vue de choisir un nouveau directeur, période qui pourra s'étendre sur 6 mois. Évidemment, l'architecte Daniel Dvořák pourra participer à ce concours. Je ne vous dirai pas le nom de cette personnalité, mais elle a de grandes expériences de direction des établissements culturels polyvalents.
C'était le ministre de la Culture, Martin Štěpánek.
Le lycée professionnel privé de la Côte d'Argent à Biganos, situé dans le bassin d'Arcachon, dans le sud-ouest de la France, et son établissement partenaire, le lycée professionnel Masaryk de Jičín, en Bohême-Orientale, ont mis sur pied un projet commun intitulé « Le panorama de l'Europe des 25 ». Son but, sensibiliser les élèves des deux pays au futur de l'Europe et leur faire découvrir les autres pays de l'Union. Tout au long de cette semaine, les jeunes de deux lycées et d'un collège de la région d'Aquitaine peuvent s'entretenir sur le sujet avec les promoteurs de l'opération, parmi lesquels Barbora Felsakova, professeure de français au lycée de Jičín, spécialisée dans le commerce et la gestion de l'entreprise, et François Spirlet, ancien déporté et enseignant en Afrique, aujourd'hui à la tête de l'association du devoir de mémoire à Arcachon. Laurent Brunier, chef de projet et directeur du lycée de Biganos, où la manifestation a débuté le lundi 11 septembre, raconte.
On avait réfléchi sur notre projet d'établissement et on voulait s'ouvrir sur l'Europe. Donc en fait, on a commencé, on va dire, humblement par des voyages scolaires dans un pays européen différent chaque année. Et puis, une réforme des lycées professionnels a été mise en place et dans le cadre des projets pluridisciplinaires, on a mis en place un projet dans l'établissement sur l'Europe. Il y avait donc 7 ateliers, et parmi lesquels un atelier avait réalisé un diaporama sur les 15 pays appartenant à l'UE et les 10 qui allaient y rentrer. Et c'est à partir de ce diaporama que nous avons pu construire donc ce projet, parce qu'en fait on souhaitait élargir un petit peu la vision de nos élèves à des pays européens. Alors, pays européens peu connus, comme par exemple effectivement la Tchéquie, voilà.
La République tchèque.
La République tchèque, excusez-moi. Donc, puis d'autres pays également, parce qu'on était un peu sur la Roumanie, la Bulgarie, enfin des pays qui s'ouvrent en fait, avec lesquels effectivement on aimerait bien partager. Et puis, en fait, on a eu une section européenne également dans l'établissement, où quelques jeunes vont partir en stage professionnel en Irlande en juin 2007. Et en fait, il nous manquait une petite pierre à notre édifice, l'échange d'établissements scolaires avec donc des jeunes européens. Et puis, en fait, M. Spirlet, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on est arrivé à ce qu'on est arrivé, a contacté Mme Fajmonova, donc de l'ambassade tchèque à Paris, qui nous a mis en relation avec un établissement qui puisse cadrer avec le nôtre, puisqu'on est un établissement professionnel. Et donc, elle a trouvé un établissement de peu près de même dimension et un établissement professionnel à peu près dans le même secteur que nous avions.
Le panorama de l'Europe des 25, c'est aussi une petite exposition qui voyagera peut-être dans d'autres villes françaises, voire dans d'autres pays de l'Union. Laurent Brunier.
En fait, l'exposition, c'est ni plus ni moins que le diaporama donc, des 25 pays de l'Union européenne, avec 4 thèmes à l'intérieur, si vous voulez. Un thème culturel, la gastronomie, les monuments historiques, et puis des personnages importants donc, de chaque pays. On a plastifié, on a fait donc une exposition, on a plastifié les documents qui ont été édités, et donc on a cette exposition dans l'établissement et dans 2 autres établissements scolaires bordelais, et nous allons donc donner ça à Mme Filsakova qui va faire l'exposition aussi dans son établissement.
Est-ce que vos élèves s'intéressent à la problématique européenne ?
Alors, on essaie de les sensibiliser bien évidemment au travers de nos projets par rapport à cette problématique européenne, effectivement parce qu'on est un peu recroquevillé un peu ici sur nous-mêmes, et on essaie de les ouvrir à ça, et quelque part ils y adhèrent, puisque dans ces projets, ils sont comme les initiateurs de ces projets, et même je dirais les réalisateurs de ces projets. Donc effectivement, ils s'intéressent de plus en plus à l'Europe.
Est-ce qu'il y en a qui connaissent la République tchèque ?
Alors je pense, honnêtement, je pense qu'il y en a très peu, si ce n'est peut-être le nom, puisque dans les questions qui ont été posées à Mme Filsakova et puis à Mme Fajmonova, on voyait bien qu'il y avait une méconnaissance donc de la République tchèque. Hein,
ça. Et de toute l'Europe centrale peut-être.
Je crois bien, effectivement. Malheureusement, je dirais qu'effectivement, vous êtes un peu les oubliés, mais j'espère et je souhaite que effectivement, par l'entrée dans l'Europe, vous puissiez participer pleinement à cette ouverture.
Laurent Brunier, directeur du lycée professionnel de la Côte d'Argent à Bikanos. En basketball, l'équipe féminine de République tchèque a raté ses débuts au championnat du monde en s'inclinant devant la France 58 à 62 mardi à Beruari au Brésil. Une défaite ennuyeuse pour les championnes d'Europe en titre, mais qui ne compromet toutefois pas encore leur chance de qualification pour le deuxième tour. Guillaume Narguet.
C'est un duel serré de bout en bout que les Tchèques ont perdu face à la France, elle aussi candidate aux places d'honneur. Le sort de la rencontre s'est même décidé dans les 60 dernières secondes. Les Tchèques, dont l'ossature de l'équipe est composée des joueuses de Brno, sacrée championne d'Europe des clubs en avril dernier, menaient encore de 2 petits points, 58 à 56, à 1 minute de la sirène avant d'encaisser un 6-0 fatal, les Françaises faisant preuve de plus d'adresse et de lucidité dans ces moments cruciaux. Mais comme en témoigne le score, c'est essentiellement à partir d'une défense agressive et très haute que les Bleus ont construit leur victoire, empêchant les Tchèques de s'appuyer sur leur point fort, l'attaque, et de déployer leur jeu. Les Françaises, emmenées par une Sandra Le Dréan, meilleure marqueuse de l'équipe avec 12 points et qui évoluera cette saison sous les couleurs de l'USK Prague, ont ainsi pris leur revanche sur un collectif tchèque auquel elles avaient concédé 20 points l'an dernier au championnat d'Europe. Les Tchèques, qui visent une place en demi-finale, doivent donc désormais se reprendre contre Cuba et Taïwan pour disputer le deuxième tour, les trois premières équipes du groupe étant qualifiées.
En football, l'attaquant international tchèque Marek Heinz s'est engagé mardi en faveur de l'AS Saint-Étienne, le mythique club français entraîné depuis le début de saison par son compatriote Ivan Hašek.
Libre de tout engagement après avoir résilié son contrat avec le club turc de Galatasaray, Marek Heinz a donc rejoint les rangs des Verts pour au moins une saison et deux autres en option. Meilleur buteur du championnat tchèque en 2003-2004 sous les couleurs du Baník Ostrava avec lequel il conquit le titre de champion, Marek Heinz n'a toutefois jamais confirmé tout son potentiel à l'étranger. Avant son échec à Istanbul, Marek Heinz n'était également pas parvenu à s'imposer en Allemagne, à Hambourg tout d'abord, comme au Borussia Mönchengladbach ensuite. Cette fois, à 29 ans, ce gaucher à la fois passeur et finisseur espère que la présence d'Ivan Hašek à la tête de Saint-Étienne l'aidera à relancer sa carrière et retrouver l'équipe nationale tchèque dont il a porté le maillot à 29 reprises et dont il faisait partie lors de l'Euro 2006 et de la dernière Coupe du Monde. Si tel était le cas et qu'il parvenait à relever le challenge d'un club stéphanois ambitieux mais toujours à la recherche de son lustre d'antan, Marek Heinz, attaquant polyvalent aussi fantasque que génial, pourrait vite se faire adopter par le Chaudron, le stade Geoffroy Guichard et ses bouillants supporters.
C'était Faits et événements en République tchèque. Restez avec nous pour la suite du programme de Radio Prague.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
David Allon est l'auteur de cette page d'histoire qui vous est présentée par Jarka Gusublova. Son thème, la trahison de Munich. Très bonne écoute à toutes et à tous. Le 29 septembre prochain, cela fera 68 ans que furent signés les accords de Munich qui virent la France et l'Angleterre céder à Hitler le territoire dit des Sudètes en Tchécoslovaquie. En laissant la seule démocratie d'Europe centrale à l'abandon, c'est bien la liberté en Europe qu'on s'apprêtait à enterrer. Comment comprendre l'attitude française, car au-delà du personnage d'Édouard Daladier, c'est bien l'opinion publique hexagonale de l'époque qui est concernée. Retour donc sur des événements de honte. En 1925, la France signe avec la Tchécoslovaquie le traité de Locarno qui prévoit une aide militaire immédiate en cas d'agression allemande ou étrangère. En 1935, 3 ans avant Munich, la France réitère ses engagements dans un traité d'assistance mutuelle avec l'Union soviétique. La Grande-Bretagne, à la différence de la France, n'est liée par aucun traité avec la Tchécoslovaquie. Le premier ministre britannique Neville Chamberlain envoie en août 1938 Lord Runciman pour jouer les médiateurs entre Konrad Henlein, chef du parti nazi des Sudètes, et Prague. Une politique de conciliation qui préfigure un mois avant la capitulation de Munich. Le 15 septembre, Chamberlain rencontre Hitler à Berchtesgaden et accepte l'annexion des Sudètes par l'Allemagne. Sous les conseils des chefs militaires, Daladier, en accord avec Londres, met les Tchèques devant le fait accompli, les prévenant qu'en cas de résistance, la France n'enverrait pas de soldats. 8 jours plus tard, le 29, Hitler, Mussolini, Daladier et Chamberlain signent les accords de Munich. Le 1er octobre, les troupes allemandes s'emparent des Sudètes, un terme finalement impropre puisqu'il implique que les territoires occupés appartiennent au sud de l'Allemagne. Ces territoires, ce sont en tout 85 000 km carrés qui abritent 3 millions d'habitants. Né en 1884, Édouard Daladier accède à la tête du Parti radical en 1927. En 1932, il devient ministre de la Défense nationale. Il y restera tout au long des 9 cabinets qui se succèdent en France jusqu'en 1940. Ironie de l'histoire, son premier gouvernement est constitué le 30 janvier 1933, soit le jour où Hitler accède au pouvoir. Le 7 juin 1933, Daladier prend l'initiative de signer avec l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne un pacte de coopération. Le projet reste lettre morte car Hitler se retire de la Société des Nations et décide de ne plus assister à la conférence de désarmement. Daladier semble n'avoir plus de doute sur la nature réelle du régime nazi. En 1934, il réprimera avec intransigeance les manifestations d'extrême droite à Paris qui font croire à certains à la tentative d'un coup d'État de type fasciste en France. Daladier est beaucoup moins enthousiaste que Chamberlain à l'idée d'abandonner l'allié tchécoslovaque. En réalité, il dispose d'une marge de manœuvre fort étroite. Le premier ministre qui a succédé au Front populaire ne possède pas de majorité assez soudée pour imposer ses vues. Georges Bonnet, le nouveau ministre des Affaires étrangères, est partisan d'une politique de modération à l'égard d'Hitler. Et il est soutenu par l'opinion publique française qui refuse de voir le spectre de la guerre mondiale surgir à nouveau. Symbole de l'aveuglement général, on peut encore croire que Hitler bluffe. Au-delà de la personne de Daladier, c'est bien la France, il faut le reconnaître, qui décide d'abandonner la Tchécoslovaquie à son triste sort. Rappelons que la guerre de 1914-1918 avait été la plus meurtrière que l'Europe avait jamais connue et que la France avait payé un impôt du sang particulièrement lourd. Il est d'ailleurs étonnant de constater que dans les années 1930, le pacifisme est le seul point qui fédère toutes les tendances politiques de gauche à droite. À son retour de Munich, Daladier a accueilli en sauveteur et dans l'enthousiasme général. Léon Blum, lui-même, devait déclarer « Il n'y a pas une femme, pas un homme en France pour refuser à messieurs Neville Chamberlain et Édouard Daladier leur juste tribut de gratitude. » Fin de citation. L'ancien président du Front populaire, qui s'était illustré par son combat contre le fascisme, cédait aux sirènes de la politique de l'autruche. Pourtant, quelques personnalités commencent déjà à diffuser des idées anti-munichoises, à l'instar de Paul Reynaud, président du Conseil pendant le début de la guerre. Citons également le syndicat la CGT qui émet des protestations après la signature des accords. Au-delà de la peur de la guerre, c'est aussi une époque dont il faut rendre compte. En 1932 paraît « Voyage au bout de la nuit » de Louis-Ferdinand Céline. L'écrivain y dénonce l'absurdité de la Première Guerre mondiale et le livre connaît un énorme succès d'édition. En 1937-38, Céline s'en prend encore aux méfaits de la guerre dans « Bagatelle pour un massacre » et « L'école des cadavres ». Mais l'approche est radicalement différente. Véritable pamphlet antisémite, les deux livres dénoncent les Juifs comme des fauteurs de guerre. Le spectre du nouvel apocalypse, c'est aux Juifs qu'on le doit. Malaise, le succès ne se dément pas auprès des lecteurs. Comment alors s'étonner qu'une partie de l'opinion publique, voyant dans le juif l'agresseur potentiel de l'Allemagne, n'hésite pas à abandonner la Tchécoslovaquie au nom de la paix? Pendant la guerre, le général de Gaulle annulera les accords de Munich au nom du gouvernement provisoire français. Mais au-delà de la mesure symbolique, la trahison franco-britannique aura des répercussions concrètes sur la situation tchécoslovaque de l'après-guerre. Restez vif, le souvenir de Munich aura sans doute favorisé une certaine défiance des Tchèques à l'égard des pays occidentaux. Staline pourra en recueillir les fruits. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les ondes de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in